Jones.
Voilà. Alors le troisième portrait, ouais, de Patou, qui elle est vraiment une écorchée vive. Hein, elle a une sensibilité à fleur de peau. Je crois que c'est ce qui fait son charme, mais sa faiblesse. Tout l'atteint très très fort et physiquement. C'est une femme de 30 ans aussi, qui a de très longs cheveux, toutes les couleurs toujours, plutôt dans les roux, bruns, blonds, mélangés. Extrêmement vive, dynamique, des grands yeux bleus, qui, elle, a un parcours qui est beaucoup plus dur, sans vouloir porter de jugement de valeur, mais elle a perdu sa mère extrêmement tôt, quand elle avait 13-14 ans. Et c'était le deuil qui a déclenché chez Patou une révolte monstrueuse par rapport à la vie, à la mort. Elle n'a pas supporté la douleur. Et elle se sentait coupable, mais je n'ai jamais réussi à analyser pour quelle raison, et je pense que ça n'avait pas lieu d'être. Elle s'est sentie coupable de ce décès. Et à partir de là, elle a commencé à s'auto-mutiler, etc. Et elle dit par auto-punition. Elle voulait se punir de quelque chose, mais elle n'a jamais compris de quoi elle voulait se punir. Donc en fait, c'est suite à ce deuil que Patou est entrée, elle aussi, dans une phase autodestructive. Elle a rencontré les punks qui étaient comme elle. Donc elle a adhéré très vite au mouvement. Et finalement, Patou est la seule qui n'a, dans le fond, jamais vraiment changé. Alors évidemment, elle n'est plus punk, etc. Mais son parcours a été difficile, dans la mesure où elle a fait pas mal de prison. Elle a chaque fois rechuté dans l'héroïne. Chaque fois qu'elle est ressortie de prison, elle a eu un enfant inattendu, qui était une surprise, qu'elle adore, mais qu'elle n'a jamais pu vraiment élever, étant donné que Patou était incarcérée, l'enfant a été placé dans une famille d'accueil. Et là, bah, c'était un beau cadeau, juste à la fin du film, elle a été libérée. Elle vit actuellement relativement bien, enfin, elle se bat, elle a du travail. Son souci actuel est de récupérer la garde de son fils, Loïc.
Et alors, toutes les trois Denise ont une vision, justement, de ce nos futurs dans lequel elles étaient, qui peut différer beaucoup de l'une à l'autre au vu de ce qu'elles ont vécu personnellement.
Alors, complètement. Donc, la devise nos futurs, bon, pour tous les punks, avait un sens différent. Hein, chacun l'a interprété à sa façon. Donc, pour Sandra, c'était avant tout une volonté de ne pas faire d'enfant. Le monde est tellement noir, est tellement moche, qu'il faut en tout cas pas donner la vie. Enfin, la seule façon qu'on ait d'agir sur le monde, c'était de ne pas nous donner la vie. Donc, de cesser, de faire cesser l'humanité comme ça, en refusant de procréer. Donc, elle, son interprétation de nos futurs, c'était très simple. C'était « on arrête de faire des bébés ». En revanche, pour Charlotte, nos futurs, c'était peut-être plus politique. C'était bon, « dans un monde comme ça, on n'a pas de futur, donc autant s'éclater la tête. Faire la fête, comme je disais tout à l'heure, rigoler. »
Vivre au jour le jour, vivre voilà. Vite, profiter, prendre tout ce qu'on peut.
Oui, profiter de la vie. Et Patou, nos futurs, c'était, je crois, beaucoup plus personnel. C'était lié à son propre désespoir. Avec une telle douleur qui lui collait au cœur, à la peau, c'était difficile pour elle d'entrevoir une possibilité de vie gaie ou sereine. Bon, ce qui a engendré cette phase d'autodestruction chez elle. Et d'autre part, c'est peut-être la plus politique des trois, finalement, Patou. Parce que c'était aussi « life fast, die young »,« vivre vite, mourir jeune ». Elle prônait l'anarchie, elle le prône toujours, d'ailleurs, d'une certaine façon. Elle se sentait très proche des textes, des paroles, justement, des Sex Pistols, hein, qu'on vient d'entendre.
Une chose qui m'a beaucoup frappée, par exemple, dans ce que Sandra a dit, elle vous dit à un moment, je devais vraiment ne pas m'aimer moi-même, je devais vraiment pas aimer mon corps pour vouloir me montrer de façon si laide, m'habiller de façon si laide, m'entailler les bras, enfin, il y avait vraiment... Une façon de s'en prendre à son corps qui mettait sa vie en danger. À un autre moment aussi, Patou dit « j'avais plus de limites, ma mère était morte, je pouvais faire ce que je voulais, mais en même temps, je mettais y compris au péril de ma vie ». Il y avait cette conscience, en tout cas pour les deux, qu'elles risquaient leur vie quelque part avec leur choix. Ça, c'est quelque chose qui vous avez senti qui est très fort, non, qui a été très fort pendant tout ce temps-là.
Oui, et je crois que toute personne capable de s'autodétruire ne s'aime pas. Hein, ça, je crois que c'est vraiment le fondement d'un acte autodestructeur. Et, bon, il y a différentes façons ou raisons de s'autodétruire. Je crois que dans le cas de Patou, c'était un appel au secours. Hein, je m'autodétruis parce que j'ai besoin d'aide. Donc, occupez-vous de moi. Pour Sandra, c'était peut-être une façon de chasser la peur, de se faire tellement de mal à elle-même qu'en fait, elle avait moins peur du mal que les autres pouvaient lui faire. Hein, reculer le seuil de résistance à la douleur, je dirais. Et Charlotte, bon, bah, ça n'avait pas beaucoup d'estime non plus pour elle-même, étant donné qu'elle avait été élevée comme ça, un peu comme le vilain petit canard, qui n'étudiait pas, qui posait toujours des problèmes. Mais bon, elle avait ce côté plus léger, plus inconscient.
Mais est-ce que le regroupement entre eux, parce que ça, je trouve qu'elle ne l'exprime pas beaucoup, ni l'une, ni l'autre, ni la troisième. Est-ce que le fait d'être ensemble les faisait se sentir mieux? Ou est-ce que chacun était isolé dans sa peur, dans son rejet de soi, etc., et du système?
Alors, le fait d'être ensemble était le fondement, je crois, de leur adhésion au mouvement punk. Ils ont recréé une famille. Et toutes les trois, là, tiennent le même discours. Je crois que tous les punks, grosso modo, tiennent le même discours. À savoir qu'ils avaient remplacé leur propre famille par la famille des punks. Et ce qu'il y avait de merveilleux dans ce mode de vie pour eux, c'est que la famille existait dans le monde entier. Donc il y a des récits merveilleux de voyages, par exemple, où bon, ils n'avaient pas un sou, donc ils voyageaient en stop, enfin, par les moyens du bord. Mais quelle que soit la ville dans laquelle ils arrivaient, ils rencontraient d'autres punks qui aussitôt les reconnaissaient comme membres de la famille, donc les invitaient dans les squats, à dormir, à manger. Enfin, ils n'étaient jamais seuls nulle part, finalement. C'était une carte de visite.
Et une auto-assistance, enfin non, une multi-assistance, quoi. En fait, c'était une sorte de cocon qui permettait de survivre. Alors, parce que je suppose que personne ne travaillait, ou difficilement, personne n'étudiait. Enfin, c'est dur de se construire, faire des choix intégrés à la société qu'on rejette avec tant de haine par ailleurs.
Oui, alors c'est vrai qu'ils étaient extrêmement solidaires les uns avec les autres, et vraiment comme en famille. Hein, chacun était préoccupé par le sort de l'autre, tout en feignant l'indifférence. Évidemment. Et c'est vrai que bon, personne ne travaillait, personne n'allait plus à l'école, et vivait avec les moyens du bord.
Alors, qu'est-ce qui, dans cette situation-là, va faire que chacune, à sa façon, va avancer vers un futur qui n'est plus pas de futur? Parce que, bon, l'enfant, vous l'avez dit, aussi bien pour Patou que pour Charlotte, c'est un hasard, c'est un accident. Donc, ce n'est pas un choix. Mais ce qui m'a frappée incroyablement, c'est que toutes les deux, elles disent « Jamais je n'aurais eu l'idée d'avorter ». Donc, en même temps, un choix pour la vie, alors qu'elles sont en plein dans leur histoire de négation et de refus. Et puis, elles choisissent la vie à ce point-là, avec une énergie complètement folle.
Alors, effectivement, elles choisissent la vie. Par contre, pour prendre la première partie de la question, hein, je ne crois pas qu'elles ont choisi de s'en sortir. Je pense que c'est la peur de la mort qui, à un moment donné, est tellement, tellement proche qu'il y a instinctivement chez tout être humain l'instinct de survie qui agit. Hein, aussi bien Sandra que Charlotte l'expriment très clairement dans le jour où j'ai été confrontée, que j'ai vu la mort en face, parce qu'elles ont été trop loin dans les histoires de dope, de manque de sommeil, de nourriture, etc. À ce moment-là, il y a le déclic qui s'est opéré. En ce moment, maintenant, il faut réellement choisir. Je continue et je meurs, ou j'arrête tout et je me sauve. Donc là, chez Charlotte et Sandra, c'est un choix de survie. Pour Patou, c'est un tout petit peu plus nuancé, parce qu'elle n'a jamais pris la décision d'arrêter. On l'a arrêtée. Hein, elle a été incarcérée. Donc c'est un cheminement qu'elle n'a pas encore réellement fait. Elle arrête par la force des choses, la force des choses étant maintenant surtout son fils, où effectivement elle a envie de s'en sortir, mais pour lui. Elle n'a jamais eu envie de s'en sortir pour elle. Donc elle n'a pas eu à faire ce choix. Et effectivement, alors, le jour où elles ont appris qu'elle était enceinte, Patou, d'une part, pensait ne pas pouvoir avoir d'enfant du tout. Donc ça a été une double surprise. Enfin, elle se croyait stérile. Donc je crois que ça a fortement motivé aussi le choix de le garder. Elle disait, oh, ce miracle m'arrive alors que je pensais ne jamais pouvoir le vivre. C'est hors de question, effectivement, d'avorter. Et puis, pour Charlotte, je sais pas, je crois que c'est qu'elle a, elle, un élan de vie naturel. Hein, même en commençant à prendre de l'héroïne ou en adhérant au mouvement punk, elle était positive. Elle n'a pas vu venir. Enfin, elle a une énergie de vie qui ne l'a jamais quittée.
Mais elle a eu l'énergie à ce moment-là de se dire « Moi, je ne peux pas faire vivre à un enfant le monde de l'héroïne, donc je vais devoir arrêter. » C'est quand même une décision folle, quoi, et une capacité à la réaliser, parce que c'est bien beau de le décider, encore faut-il l'arriver.
Oui, mais je crois qu'alors une des caractéristiques des trois femmes, pour compléter leur portrait, c'est qu'elles sont extrêmement fortes, toutes les trois. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où Charlotte a décidé qu'elle arrêtait, elle a arrêté. avec tout ce que ça comporte d'ennui, hein, de prendre la méthadone, se conformer à des cures, la souffrance. Fin. Mais c'est vrai que c'est un choix qu'elle n'a jamais remis en question, sans rechuter. Fin. C'était évident qu'à partir du moment où elle devenait maman, c'est des choses qu'elle ne se permettrait plus. Mais c'est vrai que ouais, je pense que pour être punk, quelque part, il faut être fort. Même si ça peut nous sembler une faiblesse, hein, que de prendre de la drogue, de s'autodétruire, que de ne pas avoir d'autres armes pour lutter. Quelque part, il faut quand même pouvoir affronter le regard des autres, accepter de vivre de rien, de bric et de broc, d'aller en face justement de l'autodestruction, de la mort. Ce n'est pas des choix, à mon avis, je me trompe peut-être, ce n'est pas des choix issus de faiblesse, mais plutôt d'une force immense, qui leur permet justement de naviguer avec une certaine aisance quand même, parce qu'elles s'en sont très bien sorties finalement toutes les trois, entre la vie et la mort, enfin entre l'autodestruction et la maternité.
Oui, parce que par exemple Sandra, elle, si je me souviens bien, elle parle de la force qu'elle a sentie tout à coup de se défendre, hein, d'être plus humiliée, dominée avoir peur, mais tout à coup d'être capable de se défendre elle-même. Puis en même temps, elle dit, le jour où j'ai décidé de tout arrêter, j'avais l'impression d'un 10 000 volts, j'avais une énergie incroyable. Et quand elle nous décrit effectivement tout ce qu'elle fait, on se demande bien comment elle arrive de 7 heures le matin à minuit, faire des études, travailler, faire de la musique, etc., etc., parce que la liste est longue. Donc cette notion de force, elles ont l'air d'en être toutes conscientes aussi. Il me semble que Charlotte dit, c'est étonnant de découvrir quelle force on a.
Oui.
Donc ça, c'est aussi une découverte d'elle-même. Quand vous parliez tout à l'heure de nos entretiens, leur ont permis de se découvrir. Vous vous rappelez de certaines choses que justement elles ont découvertes au travers de vos discussions qui ne leur semblaient pas d'une évidence dans leur analyse avec le recul?
Oui, ben alors, notamment ce que vous venez de citer, hein, Charlotte, par rapport à la force qu'elle avait en elle. C'est vrai qu'elle n'avait jamais raconté son histoire comme ça, du début jusqu'à la fin, à qui que ce soit. Généralement, dans la vie, on raconte les choses par bribes. Donc là, tout d'un coup, elle s'est dit « Mais c'est vrai que j'ai eu une force démoniaque. » Enfin, qu'elle ne soupçonnait pas en elle. Patou a, elle, par contre, une démarche un peu différente. Parce que la première fois que je l'ai rencontrée, elle était en prison. Donc, c'était pas facile de dialoguer. Hein. Je pouvais pas la voir quand je voulais, etc. Donc, elle s'est mise à table. Elle a commencé à m'écrire. Elle m'écrit une merveilleuse lettre de 25 pages où elle s'auto-analysait. Et en fait, la conclusion de sa lettre, c'était de dire « Ah bah finalement, même si le film se fait pas, parce que j'étais pas sûre de le faire encore à l'époque, c'est merveilleux, j'ai compris plein de choses, merci beaucoup. Enfin, » c'est quelqu'un de très généreux aussi. Donc. Elle m'a renvoyé un feedback comme ça de ce qu'elle avait vécu. Donc elle, ce qu'elle a découvert, c'était le lien entre chaque événement de sa vie. C'est le fait de les poser sur papier en racontant sa propre histoire, en commençant avec « Il était une fois, une petite fille. » Jusqu'à terme, c'est vrai qu'il faut, il faut de la patience et un sacré. Il faut tourner les yeux à l'intérieur de soi-même. Donc voilà ce que ça lui a amené à Patou.
Est-ce que vous avez eu la sensation, Denise, que l'une des trois ou les trois, enfin peu importe, se disait vraiment j'ai passé par une phase complètement cinglée de ma vie disons, si je devais le refaire, je ne le referais pas. Enfin, une sorte de regret, de rejet de cette phase de leur existence?
Non, strictement aucun regret. Au contraire, moi je crois que le fait justement qu'elles aient gardé leurs vêtements punk, les petits souvenirs comme ça, emblématiques, prouve bien qu'elles ont quelque part un tout petit peu la nostalgie de cette époque. Elles regrettent strictement rien. Si ce n'est peut-être justement cette faculté à vivre au jour le jour. Ça, Charlotte l'exprime très bien. D'ailleurs, à un moment donné, elle disait « Mais à cette époque, c'était merveilleux parce que je n'angoissais pas. Je vivais au jour le jour, je pensais ne pas avoir à assumer demain. Donc, je n'angoissais pas. » Et depuis qu'elle a pris pied dans un quotidien normal où il faut penser à ben, ne serait-ce qu'à payer le loyer à la fin du mois et à ce qu'on va faire l'année suivante, ça l'angoisse complètement. Elle a découvert l'angoisse, en fait, en perdant ce côté... Ouais, léger, life as die young, des punks. Donc elles ont plutôt ouais, des regrets de ce qu'elles ont perdu en quittant le mouvement punk plutôt que des actions. Un regret par contre, alors tout à fait net, oui, chez Charlotte, c'est d'avoir touché à l'héroïne. Elle ne s'est pas rendue compte. Si elle avait su dans quelle galère elle entrait, elle ne leur ferait pas. D'autant plus que Charlotte a perdu son premier mari d'une overdose. Donc c'est... L'héroïne est vraiment liée à un drame de vie trop violent. Ça, c'est un regret.
Nina Hagen, cheveux rouges, maquillage noir. Nina Hagen, punkette. Je vous le disais, Nina Hagen, pour nous accompagner cet après-midi, pour évoquer les femmes du No Futur, le sujet du documentaire que nous pouvons voir, faudra qu'on le précise, Denise, qu'on a pu voir hier soir à Genève, dans le cadre d'une manifestation organisée par Fonction Cinéma, qui s'appelle...
Genève Fête Sans Cinéma.
Genève Fête Sans Cinéma, c'est moi qui ai oublié. Et que nous pourrons voir à la télévision au mois de janvier. Nous préciserons la date après coup. Il y a une chose que je me questionnais, Denis, c'est faire un film avec des gens, en l'occurrence ici ces trois jeunes femmes, qui évoquent un moment de leur existence. Quel effet cela a sur elles? Parce que vous nous avez parlé, vous, de l'importance qu'un documentaire avec son contenu a pour vous, mais... Elles sont très mises en jeu dans une histoire comme celle-là, vous l'avez dit, vous ressassez avec elles, se faire revivre des choses, elles s'analysent. Vous avez senti qu'elles vous ont fait partager, c'est un moment positif et ça a peut-être d'autres conséquences pour elles?
Alors, je dirais qu'il y a plusieurs regards à porter là-dessus. Au moment où une personne est abordée pour participer à un film documentaire, il y a d'abord la peur. La peur issue du fait qu'elles ne savent strictement pas qui elles ont en face d'elles. Hein, qu'est-ce qu'on va faire comme film sur elles? Est-ce qu'elles vont faire quelqu'un d'honnête, de malhonnête? Est-ce que ça va être de la TV à scandale ou quelque chose d'un peu plus profond? Donc je crois que d'abord, il y a une immense méfiance et en même temps, une flatterie. Hein, on se dit, bah, tiens, il y a quelque chose dans ma vie qui est tellement intéressant qu'on me propose de faire un documentaire. Tiens, je ne me voyais pas si intéressant que ça. Enfin, donc il y a ces deux sentiments assez contradictoires au départ. Et ensuite, il y a toute une période où il faut s'apprivoiser, il faut se rencontrer, il faut que la personne puisse voir si elle est capable d'accorder sa confiance ou pas au réalisateur ou au journaliste qui lui fait une telle demande. Et c'est ce temps-là qui est fondamental. Parce que la relation s'installe à ce moment-là, le film se dessine à ce moment-là. Et puis, bon, bah, généralement, à partir de là, les personnes donnent leur accord pour un tournage. Bon, mais j'ai une façon de procéder qui les protège, dans la mesure où je ne sors jamais un film sans avoir eu l'accord des protagonistes en cours de montage sur le contenu. J'ai vraiment besoin, moi, que les gens que j'interviewe soient en harmonie avec ce que je dis, se reconnaissent. Qu'on soit solidaire au moment de la sortie du film. Je ne fais jamais de film contre les gens, mais avec les gens. Donc quelque part, c'est rassurant aussi pour les personnes qui s'exposent. Et ensuite, alors, lors de la sortie du film, on retrouve les deux sentiments contradictoires du début, à savoir qu'il y a la trouille d'être vu, hein, l'immense peur du regard des autres, parce qu'on dévoile des choses intimes. La réaction en général, c'est de dire « mais est-ce que ça va intéresser qui que ce soit ? Je suis pas belle, je dis des choses pas intéressantes, j'ai un accent fribourgeois coupé au couteau, je sais pas m'exprimer. » Enfin, on est tous très autocritiques, même quand on s'entend, ne serait-ce qu'à la radio, on est hyper critiques. Donc bon, c'est ça, un stade qui est difficile, je crois, pour tout le monde. Pour tout le monde à dépasser. Et puis, du point de vue personnel, alors la réaction est extrêmement positive. La dernière personne que j'ai interviewée m'a dit « Oh, mais c'est génial parce que c'est une psychothérapie qui est faite en 3 mois plutôt que de faire 4 ans de canapé. » C'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure, le questionnement en fait met en relief presque exclusivement les moments clés des destinées humaines. Hein, pour que pour le spectateur, ce soit compréhensible, puis pour qu'on puisse aller directement à l'essentiel, c'est vrai que je mets le doigt sur ce qui est fondamental. Et ce qui est fondamental est souvent dur. Enfin. Donc c'est vrai que ça contraint les gens à une auto-analyse extrêmement rapide, sur un laps de temps court, où je les accompagne, bien sûr, sans pour autant avoir un rôle de psy. Hein. Mais c'est vrai que ça, je crois que c'est la chose positive que retire... toutes les personnes avec lesquelles j'ai pu travailler. Puis ensuite, y a l'immense bonheur de la première projection, où là, je crois qu'unanimement, les protagonistes le vivent extrêmement bien. Parce qu'il y a enfin un retour du public qui nous a fait tellement peur, qui généralement est très, très positif. Quelle que soit la pensée des gens, ils ne viennent jamais dire à quelqu'un qui vient de dévoiler quelque chose de très intime, de très personnel, on ne vient jamais lui dire « Oh, ce que t'étais nul, alors vraiment, t'es pas intéressant ». Hein, les gens qui viennent s'adresser à eux sont toujours positifs. C'est parce que ça les a émus, touchés. Donc là, finalement, les protagonistes en ressortent heureux et fortifiés.
Comment on se sépare après un si long temps passé si proche, Denise ?
Alors ça, c'est difficile. C'est difficile parce que c'est, j'allais dire, un sentiment de solidarité et d'amitié qui se construit de façon accélérée. Hein, où on partage tout, peut-être sur 3 mois, 6 mois. On se voit sans arrêt, on mange ensemble, on partage le tournage, qui est quand même un moment extrêmement intense, où on n'est pas 24 heures sur 24 ensemble, mais presque. Hein, on partage tous les repas, on devient comme ça très très intime, puis ensuite il n'y a plus rien. Et quand le film est terminé, on n'a strictement aucune obligation de se revoir. Donc bon, là, il y a un deuil à faire, parce que même... Bon, moi, je continue généralement à voir les gens, hein, de façon tout à fait amicale. Mais il y a un deuil à faire, comme avec l'équipe technique, d'ailleurs. Hein, il faut se séparer pour reprendre un rythme de vie normal, un rythme de relation normal. Et je dirais, tout est à recréer une deuxième fois, après la sortie du film. Parce que finalement, la relation s'est créée pour le film. Qu'est-ce qu'elle sera après ? On n'arrive pas à le prédire.
Au vu des autres films que vous avez faits, Denise, vous avez vu que c'est possible, en tant que cinéaste, de garder des contacts avec les gens avec qui vous avez partagé des moments si proches ? Parce qu'en même temps, vous passez d'un film à l'autre, il y a des contraintes, et vous avancez, puis peut-être les autres, ils n'ont pas les mêmes projets que vous, ils ne sont pas entraînés dans ce même courant.
Oui, alors pour Mon père, cet ange maudit, j'ai gardé des relations très proches avec les deux protagonistes principaux, le père et la fille, Sabrina et Angelo, où bon, on se voit nettement moins. C'est sûr que la fréquence dans le temps est complètement transformée. Par contre, ce sont vraiment devenus des amis auxquels je suis attachée et que je revois régulièrement. Dans le cadre de Femmes du Nos Futurs, je pense que la relation est très différente. Ce sont des gens avec qui j'avais déjà partagé des choses il y a de ça 15 ans. On s'est perdu de vue pendant 15 ans. On s'est retrouvés pour le film. J'imagine qu'on risque de se perdre de vue de nouveau un certain nombre d'années. De part aussi les situations géographiques, on vit chacune dans des lieux différents. Donc, bien sûr, on se revoit, on boit un petit café de temps en temps, mais ce n'est pas une relation qui va s'inscrire dans le temps, je crois.
Il y a une chose qui m'a beaucoup frappée dans votre film, Denise. Vous interrogez ces trois jeunes femmes, Sandra, Charlotte et Patou, sur une page de leur passé, relativement proche ou encore vécue pour Patou, par exemple, pour l'une d'entre elles. Et puis, en même temps, vous les entraînez dans une réflexion sur leur futur, entre autres en les questionnant sur leur rôle de mère. Et c'est vrai qu'elles ont chacune une façon de parler de la maternité qui ne les fait pas du tout penser au passé, mais qui les tire vers ce que je veux être, ce que je ne veux pas être, ou ce que je peux faire, ce que peut-être je ne peux pas faire. Et ça, j'ai trouvé extrêmement intéressant, parce que faire simplement un documentaire, entre guillemets, historique, c'est un peu proche, mais enfin, ça aurait été peut-être bien moins intéressant que de voir qu'on entraîne en même temps quelqu'un vers une réflexion sur le futur. C'était important pour vous, ça, de ne pas faire seulement un documentaire historique ?
Alors, c'était fondamental au vu du sujet traité. Hein, parce que le passé des trois femmes est noir, est synonyme de mort, d'autodestruction. Et j'avais pas du tout envie de faire un film qui donne envie de pleurer à tout le monde. Enfin, pour moi, le film allait vraiment du noir au blanc, du passé au futur, de ce qu'elles étaient à ce qu'elles sont devenues et ce qu'elles projettent d'être. Donc, de par la structure du film, en fait, ce que vous citez était induit. Hein, c'était clair que la fin du film, ça allait être un questionnement sur l'avenir, forcément. D'autant plus que dans le titre du film, il y a la parole « Nos futurs ». C'est important pour moi de ne pas tout enterrer
là-dessus. He did not bid for his clean air, I'd have thought him something out of knife in Copperfield. I took the opportunity of confronting him. He pretended to think me an idiot, pushed me aside when I learned he was Irish, and Steve saw his green teeth. We call him Johnny Rotten. Jumping on.